Bonsoir à tous, il est 20h à Paris, 22h à Moscou, et vous êtes bien sur RFI.
Véronique Rigolet.
Et à la une ce soir, après deux jours de négociations en Arabie Saoudite, l'Ukraine et la Russie acceptent une trêve en mer Noire. Accord passé sous égide des États-Unis, qui assurent vouloir restaurer l'accès des produits agricoles russes au marché mondial. La contestation enfle en Turquie après l'incarcération du maire d'Istanbul. La répression s'intensifie également. Sept journalistes ont été emprisonnés aujourd'hui, dont un photographe de l'AFP. L'ONU demande des enquêtes sur un possible usage illégal de la force contre les manifestants. Aux États-Unis, l'administration Trump sous le feu des critiques après l'envoi d'un plan d'attaque à un journaliste. Un pépin sans gravité a d'abord minimisé le président américain avant d'accuser l'opposition démocrate d'une tentative de diversion politique. Enfin, en France, au deuxième jour de son procès pour agression sexuelle, l'acteur Gérard Depardieu conteste vivement tous les faits qui lui sont reprochés. Et il s'en prend également au mouvement MeToo, susceptible, selon lui, de devenir une véritable terreur. Et pour commencer, direction la Turquie, toujours en pleine ébullition. Ce soir encore, six jours après l'arrestation du maire d'opposition d'Istanbul, la contestation dans la rue prend de l'ampleur avec de nouvelles manifestations, alors que parallèlement, la répression s'amplifie. Près de 1200 arrestations ces derniers jours, parmi lesquelles aujourd'hui sept journalistes, dont un photographe de l'AFP, ont été emprisonnés. Décision scandaleuse qui reflète une situation gravissime en cours en Turquie, dénonce l'ONG Reporters sans frontières. Les précisions de Daniel Vallaud.
C'est ce lundi à l'aube, à leur domicile, que les journalistes ont été arrêtés. Parmi eux, des photoreporters chevronnés dont le travail a été primé à plusieurs reprises et qui ont couvert pour leurs médias respectifs les manifestations qui ont suivi l'arrestation la semaine dernière d'Ekrem İmamoğlu. Pour Erol Onderoglu, représentant en Turquie de Reporters sans frontières, il y a clairement une volonté des autorités turques d'empêcher la couverture par la presse de la contestation.
Non seulement une décision scandaleuse, mais en plus des méthodes inédites, c'est du jamais vu et ça donne une idée du risque que la justice turque prend ces jours-ci pour incriminer les représentants des médias. Il y a bien évidemment des manifestants interrogés ou incarcérés, mais le fait qu'on met dans un même lot des photoreporters, des journalistes sur place, révèle une stratégie assez ciblée qui vise à réduire au silence ceux qui sont dans la collecte de l'information pour mener à bien donc cette répression dans un climat sans témoins.
Le syndicat des journalistes turcs dénonce lui aussi une décision illégale et rappelle qu'il est parfaitement normal pour un journaliste de se rendre sur les lieux d'une manifestation pour pouvoir en rendre compte.
Et le PDG de l'agence France Presse appelle la présidence turque à la libération rapide de son photographe. Les Nations Unies font également part de leur plus grande inquiétude et exhortent les autorités à enquêter sur les allégations d'usage illégal de la force contre les manifestants. Sur le front ukrainien, ce n'est donc toujours pas la grande trêve espérée, mais Kiev et Moscou sont tombés d'accord pour un cessez-le-feu, au moins sur la cessation des hostilités en mer Noire. Après deux jours de pourparlers en Arabie Saoudite sous l'égide des États-Unis, chacun des deux pays a ainsi accepté d'assurer la sécurité de la navigation, de supprimer l'usage de la force et d'empêcher l'utilisation de navires commerciaux pour des objectifs militaires en mer Noire, selon Washington, qui assure eh bien ce soir vouloir restaurer l'accès des produits agricoles et des engrais russes au marché mondial. Un accord que respectera l'Ukraine, assure Volodymyr Zelensky, qui demande néanmoins des discussions pour régler les détails de cette trêve en mer Noire. On écoute le président ukrainien.
Il est trop tôt pour dire que cela fonctionnera, mais ces réunions, ces décisions et ces mesures étaient judicieuses. Personne ne peut accuser l'Ukraine de ne pas progresser vers une paix durable après cela.
Et le flou persiste notamment sur la date de l'entrée en vigueur de cette trêve en mer Noire. Pour Moscou en tout cas, cela ne se fera pas avant la levée des restrictions sur les exportations agricoles russes. Aux États-Unis, Donald Trump minimise la spectaculaire affaire de plan militaire secret divulguée par erreur à un journaliste, la qualifiant de simple pépin sans gravité, alors que l'opposition démocrate raille, elle, l'incompétence crasse de l'administration Trump et réclame une enquête et des sanctions individuelles en dénonçant la mise en péril de la sécurité nationale. Ton plus ferme ce soir de la Maison-Blanche qui contre-attaque et assure qu'aucun plan de guerre n'a été discuté, aucune information classifiée n'a été envoyée et accuse l'opposition démocrate d'une tentative coordonnée de diversion politique. Donald Trump qui n'a toujours pas renoncé à annexer le Groenland et à faire main basse sur ses ressources minières, au grand dam des Groenlandais et du Danemark, vent debout contre les États-Unis et qui dénonce avec force l'annonce d'un déplacement privé, selon Washington, du conseiller à la sécurité nationale Mike Vols, ainsi que de l'épouse du vice-président américain J.D. Vance, qui sont donc attendus ce jeudi au Groenland, une visite qui ne passe pas pour la chef du gouvernement danois, Mette Frederiksen, qui dénonce une pression inacceptable.
Så bliver jeg også nødt til at sige, at det er et uacceptabelt pres.
La pression exercée sur le Groenland et le Danemark est inacceptable et nous y résisterons. On ne peut pas parler de visite privée avec des représentants officiels d'un autre pays. Une visite au Groenland où le gouvernement groenlandais par intérim a clairement indiqué qu'il ne souhaitait pas de visite pour le moment, faute de gouvernement, ne permettait pas la tenue de ce type de rencontres officielles. J'ai déclaré à plusieurs reprises depuis le 7 janvier que je prenais cette situation très au sérieux. Le président Trump est sérieux, il veut le Groenland.
Er seriøs, og han er alvorlig. Han ønsker Grønland.
La chef du gouvernement danois, Mette Frederiksen, à propos recueillis par Julien Chavannes. Toujours l'escalade meurtrière au Proche-Orient, alors qu'Israël a repris ses frappes contre Gaza, mais également contre le Liban et la Syrie. Damas dénonce d'ailleurs une violation flagrante de sa souveraineté après une incursion israélienne qui a fait 6 morts dans le sud du pays. Côté Gazaoui, le ministère de la Santé du Hamas annonce lui 792 morts depuis la reprise des frappes israéliennes la semaine passée, ce qui porte à plus de 50 000 morts le bilan total depuis le début de la guerre le 7 octobre 2023. Et ce soir, l'armée israélienne a ordonné aux habitants de toutes les villes frontalières du nord d'évacuer, arguant que des roquettes palestiniennes avaient été tirées sur Israël depuis cette zone. 20h08 à Paris, en France, deuxième jour du procès de Gérard Depardieu, accusé par deux femmes d'agression sexuelle lors du tournage du film Les Volets Verts en 2021. L'acteur a vivement contesté aujourd'hui s'amuser à ploter des femmes, selon ses propres mots. Mais il a admis pour la première fois avoir pris l'une des plaignantes, Amélie, la décoratrice du film, par la taille, au cours de ce qu'il a décrit comme une engueulade professionnelle. On retrouve en direct du tribunal Laura Martel. Bonsoir.
Bonsoir.
Et cette nouvelle version de l'acteur, Laura, reste en tout cas bien différente de celle qu'a faite ensuite Amélie à la barre.
Je découvre la dernière version de Monsieur Depardieu, ça m'amuse, ça m'a même redonné le courage de parler. Évidemment, c'est totalement faux, débute Amélie. Calme et posée, elle décrit Gérard Depardieu, assis sur son cube dans un couloir, il gesticule, grogne, interpelle les gens qui passent. Mais Amélie, elle a du travail et parvient à l'esquiver jusqu'à ce moment où il m'attrape par ici, mime-t-elle, agrippant ses hanches. Il me coince avec ses jambes, me malaxe devant, derrière, remonte jusqu'à ma poitrine. Impossible pour elle de se dégager. Je constate qu'il a vachement de force, j'ai ce gros visage en face de moi avec des yeux rouge très énervé qui me dit « Viens toucher mon gros parasol ». Quand on me dit que j'invente, cette phrase, elle est tellement débile, c'est difficile d'inventer un truc pareil. Amélie raconte immédiatement les faits, mais ne donne pas de suite judiciaire. J'ai d'abord été dans le déni, ensuite dans la culpabilité de ne pas parler, de faire partie des gens qui laissent faire. Ce genre de femmes qui rient sont complaisantes, explique-t-elle, admettant également que dénoncer Gérard Depardieu, c'est risquer de ne plus travailler. Ça a aussi pesé dans la balance. Amélie porte finalement plainte 2 ans et demi plus tard, après avoir entendu à la télé le réalisateur du film parler du comportement exemplaire de Gérard Depardieu. Je me suis dit, c'est pas possible, me taire, c'est être complice de tout ça. Il n'a pas eu le temps de me violer, mais il est hors de question que mon silence cautionne son attitude.
Laura Martel, du service justice de RFI, en direct du tribunal correctionnel de Paris. Il est 20h10 à Paris, c'est la fin de cette édition. Restez à l'écoute de notre antenne dans un instant, c'est Accent d'Europe.